Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
En fait, ici, c'est devenu à la mode. À cause d'une seule personne. Mon ami Bruce. S'il n'y avait pas eu Bruce, personne ne viendrait jusqu'ici.
Bruce comme Bruce Springsteen et greeting à tous. Depuis Asbury Park, Gregory Phillips nous emmène ce soir chez le boss, son New Jersey local qui est devenu bobo super tendance depuis que Springsteen l'a chanté. Et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde sous les radars et Amélie Perry avec les Pink Floyd, avec un tableau volé et une histoire d'ours. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce avec un père déguisé en reine des neiges et des salaires hommes-femmes décidément dans le monde qui sont toujours différents. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et des talibans devenus fréquentables, alors une guerre qui se termine. On met un point d'interrogation derrière tout ça quand même, mais il s'est passé des choses cette semaine et on y viendra. Avant cela, nous allons entre la Libye et Paris. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Des histoires d'argent, des histoires de valises, de billets au sens propre du terme, des histoires de pouvoir, de campagne électorale, de guerre qui se déclenche sur des raisons qui échappent le plus souvent au grand public que nous sommes, des histoires de fonctionnement de la démocratie aussi. Il y a beaucoup de choses, il y a tout ça dans cette affaire Sarkozy-Kadhafi qui nous est racontée notamment par Mediapart depuis longtemps et racontée dans la presse évidemment, mais racontée aussi en BD, en roman graphique, condensé en BD. Je vais revenir sur le terme condensé parce que c'est important d'en parler. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Fabienne.
De la cellule investigation de Radio France. Bonsoir Fabrice Arfi, pardon.
Bonsoir.
De Mediapart. Vous n'êtes pas tout seul dans ce roman graphique. Je vais citer tout le monde. Benoît Colomba est là aussi, qui est de chez nous. Benoît, Thierry Chavant est celui qui dessine. On en parlera beaucoup du dessinateur, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez été terrible avec ce pauvre dessinateur.
L'inverse est réciproque.
Alors ben voilà, comme quoi. chacun 50-50. Michel Desprax est là aussi. Il n'est pas là, mais a participé à l'enquête. Et Geoffrey Le Guilcher, voilà, comme ça tout le monde a été cité. On le refera. On va commencer avec vous, Élodie Guéguin. Pourquoi avoir décidé de faire un roman graphique? D'où vient l'idée? On a envie de dire que c'est un peu la mode du roman graphique en ce moment, mais cette histoire-là, condensée en dessin, quelle affaire?
Alors cette idée, en fait, elle est née d'une émission de France Inter, d'une enquête qu'on avait menée avec Benoît Colomba, où on avait décidé de mettre en onde le dossier judiciaire libyen dans Secret d'Info, donc émission chaque samedi sur France Inter de la cellule d'investigation, j'en profite. Et suite à cette enquête, cette mise en onde, on avait eu énormément de réactions de gens qui se disaient sidérés par ce qu'ils avaient entendu, par le rapport qu'on pouvait, à travers les écoutes judiciaires, voire entre un ancien président de la République notamment et des intermédiaires par exemple. Et c'est vrai qu'on avait été approché par un certain nombre d'éditeurs et Benoît, qui a déjà fait une bande dessinée, qui a déjà commis une fabuleuse bande dessinée, a été approché par l'éditeur Delcourt, qui a décidé de faire de cette affaire une bande dessinée.
Parce que Fabrice Arfi, vous l'avez beaucoup écrite cette affaire, et c'est vrai qu'elle est compliquée, qu'elle est extrêmement dense, et ça fait du bien finalement aussi de l'avoir à la fois résumé et condensé. Ça veut dire qu'on revient au fil rouge et à l'essentiel au fond, en fait.
Absolument, je crois que le processus de révélation participe aussi au simple fait pour nous journalistes de mettre les perles dans le bon ordre, dans le collier, pour qu'on comprenne ce dont nous parlons. Et ce dont nous parlons, c'est une affaire inédite dans l'histoire de la Ve République et même dans les républiques qui lui ont précédé, ne serait-ce que d'un point de vue judiciaire, puisqu'à l'heure où on se parle, pour la première fois dans la République judiciaire de France, un ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy, est mis en examen pour avoir été stipendié par une puissance étrangère, en l'occurrence une dictature, à laquelle on va faire la guerre quelques années plus tard, après les faits présumés de corruption, en faisant mine de découvrir que c'était une effroyable dictature, après l'avoir accueilli comme aucune autre démocratie dans le monde, après lui avoir offert tout ce que le tyran voulait, y compris la notabilité internationale, venant d'un pays, le nôtre, qui n'est pas n'importe lequel, qui est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et de la Révolution française. Et dans la coulisse de cette République occulte, on n'était pas trop de cinq scénaristes journalistes venus de médias différents. Je crois aussi que c'est assez inédit dans la fabrique de ce que vous appelez un roman graphique, une bande dessinée, peu importe
vous
le terme.
Vous préférez quoi d'ailleurs, vous?
Oh, ben moi, tout me va. Voilà, du moment que chacun y retrouve ses petits, ça me va très bien. Pour raconter cette histoire qui est proprement hors norme et qu'on a voulu raconter à la fois comme un thriller géopolitique, mais sans une goutte de fiction. fiction, c'est-à-dire basé sur au ras du réel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un certain nombre d'annexes fin de la BD, qui sont certaines des preuves, des dizaines de preuves qui ont soutenu notre récit.
Alors j'allais vous poser la question, parce que vous l'avez effectivement bien résumé, mais vous l'écrivez depuis 7 ans. Est-ce qu'on apprend des choses qui n'ont jamais été dites et jamais été écrites dans ce roman graphique, cette BD ?
Alors moi, vous savez, j'ai un rapport à la... J'aime beaucoup le terme de révélation. Mm-hmm. Je pense que vraiment, c'est le principe même de notre métier, c'est de donner à voir à tout le monde, à vos auditeurs, à écouter, à téléspectateurs, à ceux qui nous lisent, ce qu'ils ne voyaient pas avant de l'entendre. C'est un peu le même processus, mm-hmm. vous savez, dans la photographie argentique, mm-hmm. pour ceux qui sont du siècle passé, quand on développait une pellicule, on la mettait dans le bain de révélateur. La pellicule était déjà développée, mais c'est dans le bain de révélateur mm-hmm. qu'on voyait ce qu'on ne voyait pas. Voilà. Et c'est ça, notre métier. Et dans la BD, en effet, nous mettons en scène un certain nombre d'éléments qui sont, bien sûr, parsemés ici dans des articles, mm-hmm. dans des émissions de radio, dans des documentaires. Dans les annexes, il y a à peu près 35 documents qui soutiennent le récit. La plupart des documents que nous montrons, ça va des bordereaux bancaires, au rapport secret défense de la DGSE, aux notes d'autres services, aux notes de dignitaires libyens, à des photographies de rencontres de personnages qui ne sont pas censés se rencontrer, des photographies de billets en espèces. La plupart de ces documents n'avaient jamais été montrés.
Alors il y a quand même moi des choses que j'avais même oubliées en fait au cours de ces années-là, effectivement, parce que nous aussi, finalement, en lisant, on remet les perles dans le bon sens, notamment j'en ai parlé à Élodie au moment où on s'est parlé cet après-midi. J'ignorais, moi, par exemple, et vous le mettez en scène, que avant que la guerre ne se déclenche, il y avait une médiation africaine, une vraie médiation africaine qui était prête, qui était là, qui allait décoller. Et vous prêtez à Nicolas Sarkozy des paroles qui disent, lorsqu'il a Kofi Annan au téléphone, si tu envoies des avions pour aller discuter en Libye, on descendra ces avions.
Alors, pour être très précis, c'est vrai que c'est une anecdote qui est parue quasiment inaperçue. Et c'est Kofi Annan, qui est quand même ancien secrétaire d'État du gouvernement Mitterrand, qui raconte ça sur un plateau de télévision. Il est en contact avec des membres de l'Union africaine qui ont tenté une médiation avec le colonel Kadhafi pour le forcer quelque part à quitter le pouvoir. Cette médiation, elle est possible. Et Kofi Annan raconte ce que les membres de l'Union africaine, et notamment le président Obiang, qui est en discussion au téléphone avec Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy refuse à ce moment-là que cette médiation se fasse, et il prévient, il dit aux membres de l'Union africaine, si vous intervenez, si vous franchissez l'espace aérien libyen, je vous descends. Ce sont les mots.
Ce qu'il faut comprendre, c'est un enjeu majeur. Évidemment, nous, on n'a pas l'enregistrement de Nicolas Sarkozy, mais on a quand même un ancien ministre qui le dit publiquement, qui n'a jamais été démenti et qui est même corroboré par d'autres acteurs africains. C'est essentiel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait une solution diplomatique à la crise en Libye, qui n'est évidemment pas une révolution fabriquée. Évidemment qu'il y avait des dissidents et des rebelles à Benghazi qui voulaient échapper aux mâchoires de l'effroyable dictature depuis des années, que nous avons pour partie et non négligeable aidé, armé, y compris de matériel d'espionnage, on en parle dans la BD. Et il y avait une solution diplomatique à laquelle le clan Kadhafi était prêt à signer, se retirer du pouvoir, mettre en place des élections. Et en face de cela, il y avait le bruit des bottes et une volonté farouche contre laquelle il était impossible de lutter, notamment de Nicolas Sarkozy. On connaît quel était son activisme dans cette guerre, pour une guerre totale dont l'issue a été la mort de Muammar Kadhafi dans des circonstances qui sont toujours pas aujourd'hui connues avec précision.
Ah bah, des circonstances dont vous parlez d'ailleurs, parce que là aussi ça fait partie des choses qu'on redécouvre au fond en vous lisant et qu'on voit graphiquement. Au moment où de la mort de Kadhafi, il y a une bombe qui tombe à un endroit, c'est pile l'endroit où il est, il n'y en aura pas d'autre du tout, ni avant ni après, au même endroit. Fabrice ou Élodie ?
Oui, absolument. En fait, l'assassinat de Kadhafi, c'est une opération américaine et française. D'abord, en fait, c'est un convoi entre 50 et 70 4x4 de Kadhafi qui s'enfuit de Sirte, qui était sa ville natale. D'abord, un drone prédateur américain qui fracture le convoi, puis un avion français. C'est la dernière bombe de la guerre qui tire pour tuer et qui pour viser le Muammar Kadhafi. Par miracle, il en réchappe, et il y a les scènes qu'on connaît. Les scènes où il est caché dans le conduit d'égout, il est extrait, il est lynché par la foule. On n'a pas les images de sa mort. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est qu'il est abattu, puisqu'on voit très distinctement ensuite des impacts de balles. Le gouvernement transitoire, qui était très proche de la France et de Nicolas Sarkozy à l'époque, a refusé à l'ONU qu'il y ait une inspection médicale, médico-légale de cela. Donc, nous n'avons pas de vérité scientifique aujourd'hui et médicale sur comment et par qui a été tué Kadhafi.
Et ce qu'on sait également, c'est que des forces spéciales françaises étaient présentes en Libye à ce moment-là.
Il y a autre chose qui m'a frappée, c'est l'épisode avec Bernard-Henri Lévy, que j'ai là sous les yeux, ça vous fait rire, donc on connaît le rôle qu'a été celui de Bernard-Henri Lévy dans cette guerre en Libye, et puis il y a ce qu'il dit derrière, et que je vais vous laisser dire, Fabrice Arfi, parce que 6 ans après la guerre, BHL le reconnaît, les choses ne se sont absolument pas passées comme au moment où Nicolas Sarkozy est convaincu qu'il faut aller frapper la Libye.
Absolument, en fait, c'est dans le cadre d'un ouvrage que j'ai fait avec un camarade de médias à part Karl Lasquet sur l'affaire, qui s'appelait « Avec les compliments du guide ». Et dans le cadre de cette enquête, j'ai rencontré chez lui Bernard-Henri Lévy pour reparler de l'affaire libyenne et de la guerre. Et il m'a dit, et nous l'a même confirmé par mail après, cette phrase sidérante, vertigineuse, quand on sait ce qui s'est passé, « Oui, il n'y a pas eu de massacre de population civile ». Voilà. Après, il retombe sur ses pattes en disant « Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une guerre préventive, il n'y a pas d'histoire des catastrophes évitées, etc. » Il ne manque pas de rhétorique de ce point de vue-là. Mais c'est-à-dire que les arguments qui ont été développés, y compris devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour entrer en guerre, à savoir qu'il y avait des massacres de population civile, que Muammar Kadhafi avait envoyé son aviation bombarder son peuple, qu'il y avait un génocide en route, ça a été dit à la tribune de l'ONU, tout cela n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y avait une répression, bien sûr qu'il y avait un début de guerre civile, bien sûr que le régime Kadhafi était un régime épouvantable. Il ne s'agit pas du tout de nier ça. Mais les arguments qui ont été mis sur la table pour aller en guerre ont été considérés par le Parlement britannique comme erronés.
Sur la forme, pour vous deux, d'abord, moi, je veux savoir comment on travaille avec le dessinateur dans ces cas-là, parce que c'est pas de la fiction, c'est du journalisme. Donc, on n'a pas le droit de dessiner n'importe quoi, exactement comme on n'écrit pas n'importe quoi. Donc, il faut remettre tout ça dans un contexte. J'imagine que d'ordinaire, le dessinateur, on le laisse plutôt travailler tranquillement. Là, pas du tout. Vous étiez derrière lui tout le temps, en fait. Comment ça se passe?
Tout le temps, pas tout le temps, mais quand même très régulièrement, parce que ça a été vraiment le gros travail et la particularité de cet ouvrage, c'est qu'on a essayer de scénariser le réel. Donc on s'est attaché à des détails auxquels on ne s'attache pas lorsqu'on fait un reportage radio, lorsqu'on fait une enquête en presse écrite, savoir comment sont habillés les agents français du renseignement, est-ce qu'ils sont en civil, est-ce qu'ils ont des costumes, ce sont des questions qu'on ne s'était pas posées avant. Donc on est allé regarder les moindres détails et Thierry Chavant, le dessinateur, a fait un formidable travail aussi de documentation, il s'est beaucoup documenté.
Est-ce que vous l'avez repris parfois? Est-ce que parfois vous lui avez dit non mais là c'est pas possible que ça se passe comme ça, donc tu peux pas le dessiner comme ça.
Absolument, que ce soit sur la représentation graphique ou certaines scènes dialoguées. Pour les dialogues, nous avons des témoignages, nous avons des rapports, nous avons des procès-verbaux liés à l'enquête judiciaire, et puis nous avons des écoutes téléphoniques. Donc, y compris ce qu'on met dans la bouche des gens, nous ne sortons pas de nulle part. Et évidemment qu'avec Thierry Chavant, qui a fait un travail vraiment, je trouve, époustouflant de rendu compte du réel avec son talent en plus de dessinateur, c'est qu'il a été alimenté par une partie de ce qu'on voit dans les annexes, c'est-à-dire les documents, les preuves. Vous savez, l'argument Sarkozy dans cette affaire, c'est dire que c'est un dossier vide, qu'il n'y a rien. Nous avons lui montré que c'était exactement l'inverse. Et évidemment, toute la saveur pour nous, journalistes, c'est qu'on a été obligés avec cette BD de montrer ce qu'on ne peut pas par définition montrer dans un reportage radio ou dans des articles écrits.
Et vous avez été obligés d'introduire, en introduction, vous appelez ça votre Jiminy Cricket. Je trouve que le terme est plutôt très bien choisi. C'est une espèce de narrateur qui a une espèce de forme orange, parce qu'effectivement, c'est tellement compliqué qu'il faut mettre du contexte aussi. Donc, vous avez ce petit personnage qui vient remettre du contexte et nous réexpliquer où on est, à quel moment à chaque fois.
C'est ça, c'est ce qui nous a permis quelque part de concilier cette BD, ce dessin avec les faits, avec la rigueur des faits. C'est un petit personnage qui est censé nous représenter. Il va préciser, il va contextualiser les choses. Il va aider aussi le lecteur, parce que c'est quand même une histoire qui peut paraître comme ça un peu complexe, abrupte, mais qui peut être une histoire à tiroir et qui va aider le lecteur et apporter également le contradictoire. C'est important, le contradictoire, c'est quand des personnes mises en cause contestent les faits. Et ce petit personnage nous a beaucoup aidé à cela.
Vous le disiez, et pour terminer, il y a donc les mises en examen, celle de Nicolas Sarkozy, celle de Claude Guéant, celle d'Éric Woerth aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Quel mystère reste entier dans cette histoire? Les blancs sont où, en fait?
En fait, ils sont importants, même si la justice fait un travail proprement inouï depuis 5 ans que l'enquête judiciaire est ouverte, 2 ans après les premières révélations de Mediapart. Ils font un travail qui, d'après 3 magistrats du pôle financier de Paris, estime avoir suffisamment d'indices graves et concordants pour mettre en examen tous ceux que vous venez de citer, et également ceux qu'on appelle pudiquement les intermédiaires, Ziad Taqiyeddine et Alexandre Joury, dans ce dossier qui se livre une espèce de bataille shakespearienne. Ils se haïssent, mais travaillent pour le même clan, à savoir les sarkozystes. Mais pour qu'on comprenne de quoi on parle, l'affaire libyenne, qui, de notre point de vue, je crois, est probablement plus grave que l'affaire de l'ingérence russe aux États-Unis. On parle quand même de la corruption d'une démocratie et d'une guerre après. En France, il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. L'affaire, l'enquête Mueller aux États-Unis, il a 70 agents du FBI pour lui, plus 13 avocats à temps plein sur ce dossier. En France, dans l'affaire libyenne, ça en dit long sur l'esprit de la lutte contre la corruption dans l'État français, et c'est pas une question partisane de droite ou de gauche, il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur ce dossier, et pourtant, ils avancent, et ça donne en partie cette BD.
Et bien voilà, ça s'appelle Sarkozy, Kadhafi, des billets et des bombes, la revue dessinée Delcourt. Merci beaucoup Fabrice Arfi, Élodie Guéguin.
Merci.
Profitez-en.
Vous avez aimé, Élodie, au moins?
Mais bien sûr que j'ai aimé, évidemment, j'ai gribouillé même un peu. Profitez-en samedi, 9h.
Samedi, 13h20.
13h20, pardon.
Secret d'info.
Je confonds avec Interception, allez savoir. Allez, okay. Merci beaucoup, merci à tous les deux.
France Inter. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, c'est à Asbury Park, dans le New Jersey, sur les traces de Springsteen. Amélie Perrier, là, avec les infos sous les radars en bandoulière. La chronique pour tous de Julia Foyce, avec des morceaux de Reine des Neiges à l'intérieur.
C'est ça. Vous savez, ce générique libéré, délivré, qui fait un peu saigner les oreilles, il fait du bien à la tête, il fait surtout du bien au genre, vous verrez.
On verra ça dans un instant. Le monde à l'envers. Et Jean Marfour, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
La fin de la guerre en Afghanistan.
Je vais essayer de réconcilier ces deux mots incompatibles, paix et Afghanistan.
Allez, le tour de la planète continue. Ne bougez pas avant extinction du signal lumineux, voici Lloyd Carner, You Don't Know, sur France Inter.
Started when you were year above, before I had a favorite love. Before, back when I adored, but now I'm fearing love. Before, every other fella I was hearing love. Back when the day was faded gray when you were clearing love. Cause now I only made love if I'm in love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, but rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an ass, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in stark. Just know you clouded my guts, going down on this lot. But now I sit in a hurry, worry nuts that I bust. Knowing you only went down to f***, so what the fuck is up?
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
Check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic, but this topic's very logical. Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle that breaks apart and leaves the brokenhearted to the hospital. Powerful devotion for some. When I was young, lack of any kind of emotion had me hopeless and numb. Back when I was dumb, I was never running my gums, just always running from webs that I spun. Stress weighing a ton, weight was more than I was able to bear. Cause in my mind it's mad fruity to be labelled a pair, but blatantly scared, escaping any fragrant affair. That was my duty, always threw me into times of despair. Writing rhymes to try to describe the many times that I care. Cause honestly, to put it properly, I'm underprepared. And who am I to play the cast away? I've got a bigger part to play. So when they ask me, it ain't hard to say.
You don't know what I'm looking for. You don't know.
Lloyd Turner. You Don't Know, c'est dans la playlist de France Inter version 2019 et c'est dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier, sous les radars, c'est une idole pour certains, la voix de Pink Floyd. On l'entend pas.
Ah ouais, plus fort, plus oui. Fort.
Viens, Roger.
Bon, vous l'avez reconnu, ouais. Roger Waters, ici dans une version concert de Comfortably Numb. L'icône du rock n'hésite pourtant pas à sortir de sa zone de confort. Il vient de raconter comment il s'était impliqué personnellement pour rapatrier deux enfants de Syrie. Le chanteur de Pink Floyd est engagé et ce n'est pas récent. Alors ici en concert à Barcelone en avril dernier, il parle de la situation à Douma en Syrie. Je crois, dit-il, que des organisations comme les Casques Blancs sont des fausses organisations qui existent seulement pour créer de la propagande pour les djihadistes et les terroristes. C'est ce que je crois, vous pouvez penser autrement. Réaction, vous l'entendez peut-être mitigée hein, dans le public. Alors les Casques Blancs, ce sont, vous vous rappelez, ces volontaires syriens hein, qui portent secours aux blessés lors des bombardements du régime et des Russes, notamment. Waters semble assez proche des théories de Damas. Mais là, le chanteur ne s'en tient plus au discours. Il a permis à une mère de récupérer ses deux enfants, deux garçons trinidadiens de 7 et 11 ans, emmenés par leur père en Syrie. Le père est mort depuis. Les enfants ont été retrouvés dans un camp de réfugiés à Raqqa. Waters a convaincu le gouvernement trinidadien de délivrer des visas aux garçons. Il a payé de sa poche certains documents, le billet d'avion de la maman, des Caraïbes jusqu'en Syrie pour retrouver ses enfants. Et le rocker ne veut pas s'arrêter là, il veut multiplier les actions de ce type pour réunir des familles séparées donc par la guerre.
Sauver la face après l'un des vols les plus embarrassants de l'histoire des musées russes.
Vous avez peut-être vu les images de vidéosurveillance à la galerie Tretiakov de Moscou. Un homme, tranquillement, décroche un tableau au milieu des visiteurs et puis le voleur, visage découvert, part avec, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. C'était un paysage de Crimée, peint entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, estimé autour de 175 000 euros, oui quand même. Alors, vol d'une simplicité bluffante, les autorités ont certainement eu besoin depuis de reprendre la main. Alors voilà les images diffusées par le ministère de l'Intérieur russe où l'on voit l'arrestation du suspect à genoux, mains ligotées dans l'eau, œil au beurre noir, ouais, quand même, mise en joue par les policiers. Et puis un agent qui sort d'un cagibi, la toile enveloppée grossièrement dans une couverture. Les autorités russes tentent de rassurer, elles vont revoir aussi la sécurité des principaux musées de la ville, installer des alarmes, il n'y en avait pas jusque-là. Pour la galerie Tretiakov, l'une des plus riches collections du pays, avec des Chagall, des Kandinsky, l'épisode reste quand même humiliant, car il y a 8 mois déjà, un visiteur avait vandalisé l'une des toiles les plus connues de la galerie.
Et puis Amélie, c'est une histoire qu'on pourrait raconter le soir aux enfants.
Oui, mais là c'est bien un petit garçon de 3 ans qui dit l'avoir vécu. Il s'appelle Kazeh Attaway et il a disparu dans la forêt derrière chez lui en Caroline du Nord aux États-Unis. Il a disparu pendant 55 heures. Il a été retrouvé coincé dans des ronces à 500 mètres de là où il avait disparu. Alors voilà, c'est sa mère devant l'hôpital face à la presse. Elle pleure de joie pour dire qu'il va bien, qu'il a déjà demandé à pouvoir regarder Netflix. Donc, tout va bien, dit sa mère. La fin de 55 heures d'angoisse, de recherche massive, avec des enquêteurs du FBI, près de 600 volontaires pour ratisser la zone, des chiens renifleurs, des hélicoptères, des plongeurs du corps des Marines. Des recherches qui ont dû, à un moment, être interrompues, tant les conditions météo étaient mauvaises. Moins 6 degrés en journée, encore plus froid la nuit, de la pluie, de la neige, des vents extrêmes. Mais comment un petit garçon de 3 ans a-t-il pu survivre dans cette forêt? Bien Kazeh raconte avoir été recueilli par un ours, un gentil ours qui l'a protégé. Alors c'est vrai que dans la région, il y en a, c'est possible en théorie. Les équipes de secours, elles n'ont pas vu la trace d'un ours. Kazeh l'a-t-il vraiment rencontré ou l'a-t-il imaginé? En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est ce qui l'a aidé à survivre, ça c'est certain.
Bah écoutez, formidable.
Un ours gentil.
Un ours, une sorte de Colargol.
Ça vous rappelle des souvenirs.
J'ai une passion pour Colargol. Merci.
Hashtag peluche.
Voilà,
à demain.
Amélie Perrier, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
et direction le New Jersey pour l'escale reportage d'un jour dans le monde sur la côte est des États-Unis. D'abord, laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, que le correspondant de France Inter aux États-Unis, Grégory Phillips, est fou de Bruce Springsteen. Du coup, quand il propose d'aller chez Springsteen dans le New Jersey, eh ben, on cherche même pas à le contredire. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne.
Grégory, ce que vous allez nous raconter, c'est que depuis Springsteen, grâce à Springsteen, ce morceau, ce bout du New Jersey a changé. C'était une région ouvrière. Désormais, les New-Yorkais, les touristes ont tout changé, notamment là où vous nous emmenez, dans la petite station balnéaire d'Asbury Park, que les fans du boss, évidemment, connaissent bien.
En arrivant dans cette petite station balnéaire située à une heure environ au sud de New York, dans l'autoradio, forcément, on a envie d'écouter le premier album du boss, Greetings from Asbury Park, sorti en 73 et dans lequel Springsteen chante ce New Jersey ouvrier populaire. Sur la promenade en bois qui longe la plage, il y a quelques restaurants, des bars et avec un peu de chance, vous y croiserez Vinnie Mad Dog Lopez. Il fut le premier batteur du E Street Band et il a vu la station balnéaire changer au cours de ses 40 dernières années.
Je suis né et j'ai grandi à Neptune, la ville d'à côté. Mais on venait en vélo jusqu'ici. En fait, j'ai grandi ici. Et l'endroit a connu beaucoup de changements. Certains bons, d'autres mauvais. On a l'impression que la ville est en train de renaître. Mais d'un autre côté, je n'aime pas du tout ces nouveaux immeubles, ces résidences de luxe qu'on construit ici. Parce que ce n'est pas ça, Asbury Park. Quand j'étais enfant, les familles venaient à Asbury avec les gosses pour profiter de l'océan. Et maintenant, là-bas, ils ont un projet de plage privée. C'est pas Asbury Park, ça. En fait, ici, c'est devenu à la mode, à cause d'une seule personne, mon ami Bruce. S'il n'y avait pas eu Bruce, personne ne viendrait jusqu'ici. L'industrie musicale s'est intéressée à cet endroit parce que nous avons décidé de sortir d'Asbury. On voulait se faire connaître. Et ça a attiré d'autres musiciens. Je sais que Bruce est très attaché à cet endroit, qui signifie beaucoup pour lui, parce que c'est là que tout a commencé pour nous. Mais oui, ça a beaucoup changé. Vous savez, j'avais même une chanson qui s'appelait « Qu'est-il arrivé à Asbury Park ?» Je l'ai écrite il y a 40 ans.
Alors évidemment, la ville balnéaire, 16 000 habitants aujourd'hui, est au cœur de l'œuvre de Springsteen, tout comme l'est ce New Jersey qu'il a chanté et raconté toute l'année dernière dans un théâtre de Broadway à New York pour un spectacle seul en scène, Triomphal, dans lequel le boss a pris plaisir à raconter sa jeunesse passée ici avec Mad Dog et avec tous ceux qui très vite allaient devenir le E Street Band. Extrait du spectacle Springsteen on Broadway.
So I'm 20 years old.
Donc j'ai 20 ans. Je vis et je joue de la musique sur ces plages du New Jersey. Et j'attends que quelqu'un vienne me découvrir. J'habite dans un trou à rats. Il n'y a personne. Et personne ne descend jusqu'ici. On se croirait dans un tombeau. Il n'y avait pas cette mode du Jersey Shore, du New Jersey, du son du New Jersey, toute cette merde. C'est moi qui ai inventé tout ça.
Il y a 40 ans, Asbury Park était un repère de jeunes rockers, donc, et de marginaux, de dealers aussi. Aujourd'hui, sur la promenade le long de la plage, il y a des lofts industriels que les New-Yorkais viennent acheter, parfois jusqu'à $1 million, et puis des magasins de souvenirs dans lesquels on vend la pochette de l'album Greetings from Asbury Park. Vera tient l'une des boutiques, récemment installée dans un bâtiment industriel, reconverti en galerie commerciale et en restaurant.
Ça a beaucoup changé cette dernière décennie. Ça doit faire 14 ans que j'habite là. Et quand je suis arrivée à Asbury Park, il n'y avait rien. Mais maintenant, la ville est dans tous les magazines de tourisme, dans la liste des destinations à voir. Et chaque année, on a de plus en plus de touristes. On se débrouille vraiment bien.
Au Stone Pony, le club qui a vu débuter Springsteen, c'est maintenant la jeune génération qui occupe la scène et tradition oblige, qui continue à jouer du rock. C'est précisément pour cette scène musicale qu'Uncle Ben, c'est comme ça que ce quinca se fait appeler, a choisi de s'installer à Asbury Park.
Music saved Asbury Park. C'est la musique qui a sauvé Asbury Park, vraiment, pas seulement Bruce. Non, beaucoup de musiciens locaux ont eu accès à une gloire nationale, voire internationale. Pas que Bruce, même si évidemment, il a été un facteur déterminant. Tous ces groupes locaux ont contribué eux aussi au développement de la ville. Et les gens aiment ça. Il y a de plus en plus de monde ici, avec vraiment une vibration différente de celle des autres villes. J'adore cet endroit.
I love it here.
Quant à Springsteen, lui qui chantait Born to Run et qui promettait de partir loin d'ici en courant, il habite aujourd'hui à 10 minutes de sa ville natale de Freehold et à une demi-heure d'Asbury Park. Il habite toujours dans ce New Jersey qu'il n'a jamais cessé de chanter et de raconter, celui de sa famille irlando-italienne, celui des cols bleus et celui de ses petites stations de bord de mer qui peu à peu sont en train de se transformer.
Merci beaucoup, Grégory Phillips. On est heureux que vous soyez dingue de Springsteen. Ça fait de jolis reportages. Et greetings from Paris to you, my friends. Allez, Andy Dio est canadienne. La voici sur France Inter. He needs me.
And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why I knew he needed me. It could be fantasy, oh. Or maybe it's because he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. Like a dime a dance, I'll take a chance, I will, because he needs me. No one ever asked before, before, because they never needed me. Maybe it's because he's so alone. Maybe it's because he's never had a home. He needs me, 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 he needs me. Finally found that someone needed me. And if it turns out real, then love can turn the wheel. Because he needs me, he needs me.
And did you? Sur France Inter, he needs me.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on.
Fabienne Sintès.
We're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Julia Foy, c'est sa chronique pour tous. Tous les mardis dans Un jour dans le monde, parce qu'un homme sur deux est une femme. Chaque semaine, Julia, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, des bonnes et des mauvaises. On commence par la bonne, qui nous vient d'Angola.
Ça y est, les personnes de même sexe vont pouvoir s'aimer et ou peut-être faire des choses avec leur corps, leurs mains, leur bouche, sans avoir peur de finir en prison. L'article du code pénal angolais qui réprimait les, je cite, « vices contre nature » vient d'être supprimé. Vestiges du passé décolonial portugais. Il était vague, mais toujours interprété comme une condamnation pure et simple de l'homosexualité. Dans la foulée, une loi a été votée pour punir toute discrimination envers les personnes LGBT. Alors on dit joie, on dit hi-ha, on dit bravo. Mais on en profite pour rappeler quand même que dans 69 autres pays au monde, les homosexuels sont toujours des criminels au regard de la loi. Et que même dans les pays où ils ne le sont plus, c'est pas forcément Byzance tous les jours. Hein. Vous vous souvenez, Fabienne, décembre 2017, au Parlement australien, des explosions de joie, des embrassades, des applaudissements. Le mariage venait de s'ouvrir aux couples de femmes et d'hommes. Et de très loin, on se disait « Waouh, la modernité des gars, là, l'ouverture d'esprit des Australiens, la totale tolérance des gens, non mais attends, c'est dingue !» Deux ans plus tard, on explose un tout petit peu moins de joie quand on lit cette étude de l'université de Sydney. Oui, il y a bien un lien direct entre la flambée des actes homophobes, l'augmentation du stress, de la dépression, de l'anxiété chez les personnes LGBT et les débats qui ont entouré le vote de la loi. Alors, pour ceux qui pourraient se demander si c'est une spécificité australienne, un peu comme les kangourous, hein, vous voyez, évidemment, la réponse est non. En 2013, au moment où on vote le mariage pour tous en France, SOS Homophobie note une recrudescence sans précédent de violences homophobes, 27% de témoignages supplémentaires reçus par l'association. Alors oui, parfois, le débat permet d'apaiser les consciences, mais on va dire que pas toujours. En revanche, Fabienne, voilà de quoi nous mettre un peu de baume au cœur et d'espoir à l'horizon. Il est norvégien, barbu, costaud. Il est comédien. Il a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux cette semaine. Déguisé comme son fils, en Reine des Neiges, avec tout ce qu'il faut de tulle, de robe en soie bleue et de diadème sur la tête, ils dansent tous les deux dans leur salon, sur le générique du dessin animé, bras en l'air, glissade, pirouette, ils sont en plein trip. La Corée n'est pas encore hyper ciselée. Ouais,
mais, c'est
pas mal. Mais ils ont l'air de s'éclater. Franchement, c'est contagieux. Je me fiche de ce qu'ils vont dire, dit la chanson, et il a bien raison, ce père, Reine des Neiges. Sa vidéo a fait un carton, 15 millions de vues sur Facebook, 100 000 commentaires, et pour la plupart assez élogieux. Allez la voir si vous l'avez ratée, parce que oui, je sais, cette chanson s'incruste dans la tête et fait saigner des oreilles, mais là, elle vous fera surtout sourire des yeux.
Allez, on continue avec le chiffre de la semaine.
16, comme dans 16% d'écart salarial moyen entre les hommes et les femmes en Europe, selon le dernier baromètre Eurostat sur la question. Pour être plus clair, quand un homme gagne 1 euro, une femme gagne 84 centimes. La question, c'est pourquoi? Alors, je vous laisse deviner. Hein. Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes parce que, réponse A, elles en rament pas une, les feignasses. Réponse B, elles sont à foutu de négocier les greluches. Réponse C, elles le valent bien, les blondasses.
Ses ponces nées, elles papotent soldes dans les couloirs, tiens.
Et bah évidemment, alors d'étude en étude, ça se confirme. Il y a une autre piste peut-être à étudier. Les femmes sont surreprésentées dans des secteurs peu rémunérateurs comme la santé, le social, l'administration publique et ou sur des postes à temps partiel. Bah ouais, faut bien quelqu'un pour s'occuper des enfants. Alors, je sais pas si c'est dans vos projets, Fabienne, mais vous oubliez tout de suite la Lettonie. 25% d'écart salarial en moyenne. On est tout en bas du tableau, pas très loin du Royaume-Uni ou de l'Allemagne qui se cale à 21%. La Roumanie et l'Italie s'en sortent bien mieux avec une moyenne de 5% d'écart. La France, elle, frôle les 15%, ce qui nous place au 18e rang européen sur 27. Alors, c'est pas génial, ok. Mais au moins, chez nous, il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes à des postes à responsabilité. Regardez le perchoir à l'Assemblée. Le Sénat. Regardez le Matignon non plus.
Allez, on termine avec la petite phrase de la semaine.
Ou la pape Françoise hein, de la semaine, il a le sens de la formule, voire celui du buzz, on le sait. Preuve encore ce week-end à Panama pendant les JMJ. L'homme aux 44 000 abonnés sur Twitter a su trouver les mots pour faire tilt.
44 000, c'est tout ?
Oui.
C'est tout ?
44 millions ?
Ah bah, 44
000 ?
Ah bah non,
44 000,
ça veut dire que
j'en aurais
combien ? Plus que le pape, ça me paraît pas possible.
On vérifiera.
Ouais,
on demande à ceux qui nous écoutent. Dites-nous combien il a de followers. En tout cas. 44 000 ou 44 millions, on n'est pas à quelques millions près.
Ouais,
allez, il est agile du pouce, il a tweeté « Marie est la femme qui a le plus influencé l'histoire sans les réseaux sociaux. Elle a été la première influenceuse, l'influenceuse de Dieu. » Alors, dit comme ça, je sais, ça peut paraître un peu chelou. L'abus d'hostie est-il dangereux pour la santé? Je ne sais pas, Fabienne, je ne sais pas. En même temps, une femme qui tombe enceinte, seule, qui, tout en restant vierge, devient mère, sans même un petit roulé-boulé dans le foin, ça sent soit le fake news avant Facebook, soit la PMA avant l'heure. Comme quoi, il a du pif, le pape.
Allez, sinon 40 millions, juste comme ça.
Oh, ça va.
Julia Foyce, merci, à mardi.
Le 18-20, Fabienne Synthèse.
sur France Inter.
Pourquoi j'ai rigolé comme ça? C'est mon rire de juillet, ça. Normalement, pas du tout. Jean Marfour et le monde à l'envers. L'un des pays dont le nom est associé à la guerre qui n'en finit plus, c'est l'Afghanistan, Jean-Marc. Mais pour la première fois, sans doute, et c'est une information passée largement inaperçue, il y a un mince espoir de paix. La paix en Afghanistan, ça paraît contre-intuitif, mais c'est votre monde à l'envers.
Je vais vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière à Doha, au Qatar, parce que le déroulement des faits est digne à lui seul d'un scénario de film. Depuis des mois, la diplomatie américaine négocie en coulisses avec des émissaires des talibans qui contrôlent, rappelons-le, plus de la moitié de ce pays de 38 millions d'habitants qui est ravagé par la guerre depuis 40 ans. Sauf que jusqu'à présent, ce n'était jamais assumé et que les émissaires des talibans étaient toujours des seconds couteaux. Il y a 8 jours, lundi 21 janvier, l'émissaire américain Zalmay Khalilzad se rend donc au Qatar pour une nouvelle séance de discussion, sauf que peu à peu, il réalise que cette fois-ci, les négociations sont plus sérieuses. D'abord, elles sont assumées et puis surtout, elles durent 8 heures par jour. Un jour, deux jours, trois jours. Le quatrième jour, le jeudi, Khalilzad, il a prévu de rentrer en Afghanistan. Et c'est alors que débarque à Doha un dignitaire des talibans, le Mollah Abdul Rani Baradar, longtemps prisonné par les Américains, autrefois un proche du tristement célèbre Mollah Omar. Et désormais, c'est lui qui va négocier. Et les discussions reprennent, deux jours de plus, jusqu'à samedi soir. C'est sans précédent. Tout indique que les négociations devraient maintenant reprendre rapidement, courant février, toujours en présence du Mollah. Autrement dit, pour la première fois, les talibans assument publiquement une négociation de haut niveau avec les États-Unis.
Mais alors, il y en a eu beaucoup, Jean-Marc, des négociations depuis 10 ans, pourquoi celle-là marcherait plus qu'une autre?
C'est vrai, il y en a eu plein, mais jamais de cette ampleur en 17 ans de guerre. Et l'émissaire américain a d'ailleurs lâché le morceau en fait hier, lorsqu'il a enfin pu revenir à Kaboul. Oui, il y a un brouillon d'accord, un donnant-donnant. D'un côté, un retrait progressif des 14 000 soldats américains encore présents sur le sol afghan, sans doute d'ici 18 mois. De l'autre, un cessez-le-feu et surtout un engagement des talibans de ne plus tolérer la présence d'organisations terroristes en Afghanistan. Rappelons quand même que c'était ça le déclencheur de la guerre en 2001, après les attentats du 11 septembre, la protection accordée par les talibans, pour ne pas dire plus, à Al-Qaïda. Alors pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'il y a une forme de lassitude, d'épuisement, des dizaines de milliers de morts du côté des talibans comme du côté des forces de sécurité afghanes, plus de 4000 soldats occidentaux morts, dont 2500 américains, sans oublier la facture phénoménale pour les États-Unis, officiellement 930 milliards de dollars, sans doute le double si on compte les coûts indirects. Un diplomate occidental affirme aujourd'hui que les talibans n'ont jamais donné autant de gages de leur volonté de négocier. Et puis en face, c'est simple, Donald Trump ne s'en cache pas. Bring the boys back home, comme on dit. Il veut que les gars rentrent à la maison. L'ancien ambassadeur américain en Afghanistan, Ryan Crocker, a cette formule. C'est comme le Vietnam, en fait. Les États-Unis ont perdu, on veut juste ficher le camp. Il s'agit seulement de maquiller ce retrait avec du rouge à lèvres.
Sauf que ça veut dire que les talibans sont en position de force.
Alors c'est ça le bémol. C'est ça qui peut faire tout capoter, que les talibans poussent trop loin leur avantage. Parce qu'il reste un point majeur à négocier, trouver un accord interne à l'Afghanistan. Entre les talibans et le gouvernement central du président Ashraf Ghani. Jusqu'à présent, les talibans ont toujours refusé de reconnaître sa légitimité et de discuter avec lui, d'autant que son gouvernement est considéré comme l'un des plus corrompus au monde. C'est pourtant sans doute la meilleure solution pour éviter une nouvelle guerre civile, un gouvernement de transition et de coalition qui organiserait de nouvelles élections, pour l'instant prévues en juillet prochain, et qui rédigerait une nouvelle constitution. Il y a quand même des points critiques à trancher, je pense notamment au statut de la femme. Les talibans restent, vous le savez, rétrogrades sur cette question, même s'ils tolèrent désormais la scolarisation des filles sur une partie du territoire qu'ils contrôlent. C'est un sujet difficile, pas impossible. Il y a 4 ans, les talibans avaient accepté une première négociation en toute discrétion à Oslo avec une délégation de femmes afghanes. Aujourd'hui, un Afghan sur deux a moins de 25 ans. Pour eux, depuis samedi, il y a désormais un petit espoir de connaître la paix. Il est mince, mais c'est déjà ça.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Sur France Inter, il est 19h.